Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts d'Educa sur la numérisation dans l'éducation. Je m'appelle Benjamin Folland. Dans cette série, nous parlons des principaux résultats de notre rapport « La numérisation dans l'éducation » et ce qui signifie pour la vie, l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles en Suisse. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des principaux facteurs qui rendent le thème de la numérisation si virulent pour le système éducatif, à savoir la crainte plus ou moins justifiée que la numérisation détruise une partie considérable des emplois tels que nous les connaissons aujourd'hui. Notamment que l'intelligence artificielle réduise de plus en plus les besoins des main-d'œuvre humaine et que cela conduise, dans le pire des cas, à l'émergence d'une nouvelle classe d'individus, une classe inutile, comme l'a formulé un jour l'historien Yuval Harari. Il parle, et je cite, de gens sans aucune valeur économique, politique, ni même artistique, qui ne peuvent finalement rien apporter à la prospérité, au pouvoir ou à la renommée de la société dans laquelle ils vivent. Et aujourd'hui, il s'agit donc de voir ce qu'on peut dire jusqu'à présent des effets de la numérisation sur les marchés du travail. Ce que l'on peut éventuellement déduire des vagues d'automatisation dans le passé et bien sûr les conséquences sur le système éducatif pour l'école.
Educa, agent novateur.
En 2013, deux économistes britanniques, Carl Frey et Michael Osborne, publient une étude qui suscite encore aujourd'hui un certain émoi. Dans cette étude, sur la base d'une enquête auprès d'experts dans le domaine intelligence artificielle, ils estiment la probabilité d'une automatisation de métiers existants d'ici 2033. Par exemple, la probabilité que le chauffeur de camion ou de bus perde leur emploi est de 67%. Pour les comptables et les auditeurs, 94%. Pour les économistes, elle est de 43%. En forçant le trait, les deux auteurs partent du principe que l'un d'entre eux aura perdu son travail au profit d'un ordinateur d'ici 2033. En revanche, les emplois de travailleurs sociaux, des enseignantes ou des collaborateurs dans l'administration de l'éducation sont sûrs. Toutes ces professions ont une probabilité d'automatisation de moins d'un demi-%. La chance est de notre côté. Au final, Frey et Osborne parviennent à un résultat effrayant. Près de la moitié des travailleurs américains exercent des professions qui seront fortement menacées d'ici 2033 et le constat n'est pas différent pour la Suisse. Et comme il s'agit de pertes considérables, ces résultats ont naturellement provoqué un petit tremblement de terre. Et ils ont été reçus de manière incroyablement large. L'étude a déjà été citée plus de 10 000 fois et avec le podcast d'aujourd'hui, 10 000 et une fois. Il existe toutefois un certain nombre d'indices qui laissent penser que les résultats sont peut-être un peu trop dramatiques. Le premier indice est purement empirique. Nous nous trouvons actuellement à mi-chemin de 2033 et nous pouvons constater, même dans les professions où l'étude prédisait une probabilité d'automatisation de plus de 99%, les machines ne se sont pas encore imposées. Par exemple, chez les vendeurs par téléphone, comme beaucoup peuvent en témoigner par leur douloureuse expérience. Le deuxième indice est qu'en plaçant leur analyse au niveau des professions individuelles, Frey et Osborne partent implicitement du principe que toutes les personnes avec le même titre professionnel font, en fin de compte, la même chose et qu'il n'y a pas ou peu de variations dans la possibilité d'automatiser des tâches au sein d'une profession ou d'un groupe de professions. Que tous les économistes font des analyses statistiques ou construisent des modèles mathématiques. Et effectivement, ne font que cela. Mais en réalité, les personnes qui exercent la profession d'économiste ont un éventail relativement large d'activités. Par exemple, ils s'enseignent dans les universités, ils conseillent les politiques ou l'administration, ou ils font des podcasts. Et toutes ces tâches ne sont pas aussi faciles à automatiser et tous les économistes ne font pas toutes ces tâches. La possibilité d'automatiser un poste de travail concret dépend donc fortement du type et de la composition des tâches de ce poste de travail spécifique. Et la manière dont on l'appelle n'a pas vraiment d'importance. Des études récentes montrent que si l'on tient compte de ces différences dans la structure des tâches, la proportion d'emplois avec un risque élevé d'automatisation tombe à 9% pour les États-Unis et à 14% pour l'ensemble de l'OCDE. Cela représente encore beaucoup d'emplois, environ 33 millions pour l'ensemble de l'OCDE, mais c'est aussi beaucoup moins que la moitié. Le troisième point, peut-être le plus important, est lié à la nature des processus d'innovation capitaliste. Comme l'a très bien décrit l'économiste Joseph Schumpeter, ce sont des processus qui détruisent des choses, des produits, des processus de production, des emplois. C'est la partie la moins agréable. Mais ils le font en créant de nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux processus de production et, en règle générale, de nouveaux emplois. Schumpeter parle ici de processus de destruction créative et le travail de Frey et Osborne se concentre justement sur la partie destruction de ces processus en laissant de côté la partie création. Ce n'est pas la faute de deux scientifiques, ils le font de manière relativement explicite dans leur article. Mais dans la discussion sur ces résultats, cet aspect est très souvent oublié. En retour en arrière, nous montre en fait que des craintes dramatiques similaires concernant les effets sur le bien-être ont été émises par le passé pour presque tous les processus d'automatisation à caractère technique. À commencer par la diffusion du métier à tisser mécanique au début du 19e siècle et le révolte ludite en Angleterre, ou avec l'apparition de l'agriculture mécanisée au début du 20e siècle, la généralisation des procédés d'assemblage mécanique dans les années 50 et 60, ou encore avec le triomphe des bancomates dans les années 80 et 90. Et avec les reculs, on peut constater que ces craintes ne sont jamais vérifiées jusqu'à présent, du moins à moyen et long terme. Nous avons par exemple toujours des employés dans les guichets des banques, même s'ils passent plutôt leur temps à conseiller les clientes qu'à faire de retraite argent. C'est l'un des constats le plus fascinant dans l'histoire économique, après plus de 200 ans de remplacement constant des humains par des machines et l'automatisation ne pas d'autre chose, il y a encore autant d'emplois. Il y a deux raisons principales à cela. D'une part, notre cupidité. Elle nous pousse à consommer toujours plus des biens et des services, toujours plus innovants. Le travailleur moyen aujourd'hui pourrait attendre le même niveau de vie qu'en 1950 s'il arrêtait de travailler mi-avril. Et pourtant, personne ne le fait, parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui rendent la vie bien meilleure et plus agréable qu'en 1950. Par exemple, dans le domaine de la santé. Et cela a pour conséquence que la demande des produits, des services, ne cesse d'augmenter. En d'autres termes, si l'automatisation rend certaines étapes de travail plus fiables, moins chères ou plus rapides, cela augmente la valeur du travail non automatisé, c'est-à-dire du travail humain restant dans le processus de production. Ces deux explications ensemble, la cupidité et la dépendance de chaque chaîne pour son maillon le plus faible, font que, jusqu'à présent du moins, le changement technologique a généralement eu un effet net positif sur la situation de l'emploi, à moyen et à long terme. Sans compter qu'il augmente justement la productivité et que nous nous enrichissons ainsi en tant que société. Au final, nous ne savons pas si cette vérité historique restera valable pour l'automatisation provoquée par la numérisation. Cela est dû en premier lieu au fait que cette évolution ne fait que commencer. Cependant, la plupart des études scientifiques montrent, du moins jusqu'à présent, que l'effet net des changements structurels provoqués par la numérisation est plutôt positif, c'est-à-dire que plus d'emplois ont été créés que détruits. Par exemple, Benjamin Balzheim et Martin Werther montrent dans un article de 2019 que pour 100 000 francs investis dans les technologies de production numérique, un emploi et demi est créé dans les entreprises en Suisse. Mais, et c'est un grand mais, les emplois menacés par les technologies numériques et les emplois créés par l'utilisation de technologies numériques sont très différents. Les algorithmes, les ordinateurs et les robots remplacent, du moins jusqu'à présent, surtout les professions qui impliquent un autre degré de répétition, de routine, de règles claires, des mécanismes répétitifs. Cela vaut pour les travaux physiques, comme les travaux auxiliaires dans la production industrielle, mais aussi de plus en plus pour les activités cognitives, par exemple la tenue des comptes dans la comptabilité. Ce sont des métiers qui exigent souvent un niveau de qualification faible à moyen. En revanche, les emplois qui se créent exigent en général un niveau de qualification plus élevé. Ce sont des postes qui comportent beaucoup d'imprévus, peu de routine et qui exigent souvent des compétences analytiques, communicatives, créatives, sociales ou des résolutions des problèmes. Tout simplement parce que les tâches répétitives et régulières peuvent être automatisées relativement facile et rapidement. C'est le risque simplement d'approfondir la polarisation déjà visible du marché du travail, c'est-à-dire le fossé entre les emplois bien payés, intéressants et satisfaisants d'une part, et les emplois mal payés et insatisfaisants d'autre part.
Educa, agent novateur.
Nous devons partir du principe que l'avenir, la main-d'œuvre humaine, sera encore plus demandée qu'aujourd'hui dans des domaines qui exigent justement ces capacités, telles que la créativité, l'analyse, la résolution des problèmes, la communication, les compétences sociales, etc. Le profil des offres d'emploi, mais aussi le profil des exigences des professions, se déplaceront donc dans cette direction. Et ces changements ne passent évidemment pas inaperçus dans le système éducatif. D'abord, parce qu'il modifie les exigences posées aux jeunes qui quittent l'école pour trouver un emploi et bien sûr aux travailleurs au cours de leur vie professionnelle. Et le système éducatif réagit aussi, par exemple avec l'adaptation de programmes scolaires, du LEAPLAN 21 et de l'éducation numérique à la révision des plans d'études cadres pour la formation professionnelle. La question passionnante est de savoir si nous parviendrons à former suffisamment bien les élèves pour leur permettre de prendre leur place de manière autonome dans une société, dans une économie du 21e siècle. Et parce qu'elle implique un aspect boule de cristal, la réponse à cette question est très différente d'un scientifique à l'autre. D'un côté, il y a des positions comme celle de l'historien Yuval Harari qui part du principe que nous nous rendrons cette fois vraiment superflus, du moins à long terme. D'autres auteurs, par exemple ceux du rapport L'éducation en Suisse, avertissent que les mesures de formation ne permettront pas d'élever la majorité de la population à un niveau de compétence qui garantira, dans un avenir prévisible, une certaine protection contre le remplacement par des ordinateurs. De l'autre côté, il y a des voix comme celle de l'économiste américain David Auter qui disent « Oui, la transformation de l'éducation sera difficile et chère. Mais nous avons déjà maîtrisé des transformations fondamentales similaires et nous sommes riches grâce à l'automatisation et à notre incroyable productivité. Nous pouvons aujourd'hui nous permettre d'investir dans notre système éducatif et nos enfants beaucoup plus facilement que lors de l'introduction de l'école primaire gratuite en 1874. Lequel de ces avis reflétera finalement la réalité sera aussi le résultat des décisions que nous prenons aujourd'hui. Résumons. La numérisation a donné un nouvel élan et une nouvelle ampleur au processus de remplacement des travaux humains par des machines qui durent depuis au moins 200 ans. Elle permet d'automatiser des activités, notamment cognitives, sur lesquelles l'homme a longtemps eu le monopole. Il est peu probable que ces processus rendent le travail humain superflu dans un avenir prévisible, mais ils modifient les exigences qui doivent être remplies pour exister dans une société et une économie où les technologies numériques occupent une place de plus en plus importante. Et permettre aux enfants et aux jeunes, aux élèves, de répondre à ces exigences est certainement l'un des grands défis qui accompagnera le système éducatif pendant encore un certain temps. Jusqu'à présent, et l'histoire de l'automatisation le montre, le système a très bien réussi à relever des défis similaires. L'avenir nous dira s'il en va autrement cette fois. Mais pour moi, c'est un motif d'espoir de se rendre compte que dans l'histoire de l'automatisation, il y a toujours eu un « cette fois-ci, c'est différent ». Les futurs épisodes de notre série de podcasts donnent également des raisons d'espérer. Nous allons notamment aborder ce que nous savons réellement des conséquences de l'utilisation des médias numériques sur la santé et essayer d'évaluer la position de la Suisse en comparaison internationale lorsqu'il s'agit de la numérisation dans l'éducation. D'ici là, merci pour votre écoute.
Educa, agent novateur.